Les premiers missionnaires parmi les païens, Antioche. Tandis que Pierre introduisait à Césarée des gentils dans l'assemblée de Dieu, le Seigneur, qui emploie les instruments qu'il veut, dirigeait d'humbles missionnaires, dont les noms nous sont inconnus, à annoncer l'évangile aux païens dans la grande ville d'Antioche. Cette cité célèbre dans l'Antiquité, la troisième ville de l'Empire romain et surnommée la Reine de l'Orient, était située dans une plaine fertile sur les bords du fleuve Oronte, à 27 kilomètres de la mer. On dit qu'elle compta jusqu'à 500 000 habitants, tous païens, sauf un certain nombre de Juifs qui s'y étaient établis. Aujourd'hui, bien que déchu de sa grandeur passée, il s'y trouve environ 30 000 habitants, dont près du tiers professent le christianisme. Tandis que les grandes cités tombent et que la gloire du monde s'évanouit, ce qui est de Dieu est permanent. Un souvenir impérissable s'attache à cette ville. C'est là que les disciples du Seigneur furent pour la première fois nommés chrétiens. Nous avons vu qu'après la mort d'Étienne, une grande persécution avait sévi contre l'assemblée de Jérusalem, de sorte qu'un grand nombre de disciples quittèrent cette ville et se répandirent d'abord dans la Judée et la Samarie, et ensuite plus loin. Il y en eut qui, suivant les bords de la Méditerranée, passèrent en Phénicie et arrivèrent enfin à Antioche. Mais en quittant Jérusalem, ces disciples du Seigneur emportaient dans leur cœur un trésor que les hommes ne pouvaient leur ravir. C'était la connaissance de Jésus comme leur Sauveur, la vie de Dieu dans leurs âmes, la jouissance de l'amour de Dieu dans leur cœur et, par conséquent, la paix et la joie. Quand on a acquis ce trésor, on ne saurait le garder pour soi. On peut le partager sans s'appauvrir. Au contraire, et pour la gloire de Christ, et par amour pour eux, on désire que ceux qui nous entourent en jouissent aussi. Tels étaient les sentiments de ces disciples dispersés, fuyant la persécution. Leur vie et leurs paroles rendaient témoignage à Jésus. Partout où ils allaient, ils répandaient la bonne odeur de Christ. Ils annonçaient la parole. Ils n'étaient pas des apôtres, mais de simples fidèles, remplis de l'amour de Christ. Et vous, qui appartenez au Seigneur, vous pouvez aussi être des missionnaires et des évangélistes autour de vous. Cependant, retenus encore par leurs préjugés nationaux, la plupart des dispersés n'annonçaient Christ qu'aux seuls Juifs. Mais l'Esprit de Dieu qui avait conduit Pierre à Césarée agit dans le cœur de quelques-uns de ceux qui étaient venus à Antioche et, touchés de la triste condition des idolâtres, et pressés, sans doute, par l'amour du Sauveur mort pour tous, ils se mirent à parler aux païens et à leur annoncer le Seigneur Jésus. C'est tout l'Évangile. Connaître le Seigneur Jésus et croire en lui répond à tous les besoins de l'âme. Le Seigneur montre que ses disciples, en annonçant son nom aux païens, étaient bien entrés dans les pensées de son cœur. Sa main, c'est-à-dire sa puissance, était avec eux. Il agit par son esprit dans les cœurs de ceux qui écoutaient la parole, de sorte qu'un grand nombre crurent et se tournèrent vers le Seigneur, laissant leurs misérables idoles et leur ancien train de vie. Quand la parole de Dieu est reçue dans le cœur, c'est toujours l'effet qu'elle produit. Elle détourne nos pensées et nos affections de nous-mêmes et du monde, et les tourne vers le Seigneur. C'est là la vraie conversion. Permettez-nous de vous demander à vous qui avez entendu si souvent l'Évangile et l'appel de Jésus vous invitant à venir à lui, vous êtes-vous tourné vers ce précieux Sauveur qui vous a tant aimé? Êtes-vous converti comme ces heureux habitants d'Antioche? Ces bonnes nouvelles arrivèrent à Jérusalem. L'assemblée les apprit. Et nous pouvons être sûrs que, préparé comme il l'était par la conversion de Corneille, cette manifestation nouvelle de la grâce de Dieu envers les païens réjouit grandement le cœur des fidèles. Ils y voyaient une preuve manifeste que Dieu avait aussi donné aux nations la repentance pour la vie. les chrétiens sont toujours heureux d'apprendre que des âmes sont amenées au Sauveur, car c'est la gloire de Christ que des pécheurs soient arrachés à Satan. Mais il était nécessaire que l'assemblée de Jérusalem, où restaient les apôtres, montrât son intérêt à ces nouveaux convertis qui, maintenant, faisaient partie de l'assemblée de Dieu. Le Seigneur veut nous apprendre ainsi que, bien qu'il y ait des assemblées en divers lieux, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. L'assemblée de Jérusalem envoya donc Barnabas à Antioche. Barnabas était ce lévite de l'île de Chypre qui avait vendu ses propriétés dont il avait mis le prix aux pieds des apôtres pour être distribué aux pauvres de l'assemblée. C'était un cœur désintéressé et tout au Seigneur. De plus, il savait discerner les âmes, les soutenir et les encourager dans l'épreuve. C'est ce qu'indique son nom, qui veut dire « fils de consolation ». Et le fait suivant nous le montre. Quand Saul, après sa conversion, fut obligé de quitter Damas parce que les Juifs voulaient le faire mourir, il vint à Jérusalem. Mais là, personne ne voulait le recevoir, on le craignait, on ne croyait pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, ayant sans doute reconnu en lui l'œuvre de Dieu, l'accueillit et le mena aux apôtres auxquels il raconta comment le Seigneur avait converti le persécuteur. Vous voyez encore en cela un beau trait du caractère de Barnabas. Le Saint-Esprit vient confirmer par son témoignage ce que ses actes nous font connaître de lui. Il était homme de bien, dit la parole, et plein de l'Esprit Saint et de foi. Il était homme de bien, bon et honnête dans son caractère comme homme, mais à cela s'ajoutait ce qui est plus excellent, et sans quoi le plus beau caractère ne serait rien dans le service de Dieu. C'est le don divin, le Saint-Esprit, qui remplissait Barnabas de la vie de Dieu, et la foi par laquelle il s'attendait à Dieu et mettait en lui toute sa confiance. Ce sont là les caractères désirables et nécessaires pour un serviteur de Dieu. Mais nous pouvons tous en tirer une leçon, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un caractère bon et aimable, de nobles et belles qualités. Avant tout, il faut la foi et l'Esprit Saint dans le cœur. Cet homme de bien qui aimait le Seigneur Jésus fut réjoui en voyant la réalité et l'étendue de l'œuvre de la grâce de Dieu chez les convertis d'Antioche. Il les exhorta à rester attachés au Seigneur de tout leur cœur, comme chacun de nous est exhorté à le faire. Le ministère de Barnabas à Antioche fut béni. Une grande foule de personnes furent ajoutées au Seigneur, c'est-à-dire converties et sauvées. Remarquez cette expression « ajoutées au Seigneur ». Ceux qui sont convertis ne sont pas ajoutés à une dénomination humaine quelconque, mais au Seigneur, comme faisant partie de son peuple céleste, comme membre de son corps. Tout était pour la gloire du Seigneur seul. L'œuvre de la grâce s'étendant ainsi, Barnabas sentit le besoin d'un collaborateur pour l'aider dans son service, et il pensa à Saul qui lui avait sans doute raconté que le Seigneur, lorsqu'il lui apparut, l'avait désigné pour prêcher l'Évangile aux nations. Saul avait bien rendu témoignage de sa foi au Seigneur Jésus dans les synagogues, parmi les Juifs, mais il attendait l'appel du Seigneur pour entrer dans son service auprès des païens. Où était alors Saul? Non plus à Jérusalem. Il y avait prêché Christ, et les Juifs, remplis de haine contre celui qui avait été un de leurs principaux appuis et qui s'était tourné vers le Seigneur, avaient voulu le faire mourir. Alors les frères avaient conduit Saul à Césarée, d'où il s'était rendu à Tarse, sa ville natale. C'est là que Barnabas alla le chercher. Saul vint donc avec lui à Antioche, et, pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, affermissant les nouveaux convertis et annonçant l'Évangile. Ce mouvement remarquable, cette œuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu, qui faisait que les païens se tournaient des idoles vers le Dieu vivant et vrai, frappa les habitants d'Antioche. On voyait les nouveaux convertis parler de Christ, s'attacher à Christ, se réclamer de Christ, et on les nomma chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont de Christ. C'était, dans la bouche des païens, un terme de moquerie et une injure. Mais quel beau nom ! Être de Christ, être à Christ, il n'y a pas de nom plus glorieux. Aussi l'apôtre Pierre dit-il, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. » En effet, il ne suffit pas de porter ce nom et de vivre comme le monde, mais il faut glorifier Dieu en vivant de la vie de Christ. Alors seulement on est vraiment chrétien. Les chrétiens d'Antioche comprenaient bien ce que c'était que d'être de Christ. Ils sentaient qu'ils étaient unis aux autres disciples du Seigneur de quelque nation qu'ils fussent, et qu'ils avaient à le leur témoigner par leur amour. Des prophètes, c'est-à-dire des croyants ayant le don de prophétie, étant venus de Jérusalem à Antioche, l'un d'eux, nommé Agabus, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée. Aussitôt les disciples, le cœur ému d'affection pour leurs frères de Judée appauvris par la persécution, leur envoyèrent par Barnabas et Saul le produit de ce que chacun avait donné selon ses ressources. Ainsi ces païens convertis montraient dans la pratique qu'ils étaient membres du corps de Christ et de la famille de Dieu, tout comme les convertis d'entre les Juifs.